On se rejoint maintenant pour la revue de presse. Commençons en France où il y a une augmentation de 18 % des décès à cause des chutes en 5 ans. Donc, c'est quand même une augmentation qui est préoccupante. Les chutes constituent la première cause de décès accidentels chez les personnes âgées de plus de 65 ans. C'est une étude publiée par Santé publique France en mars 2026 qui montre une aggravation de la situation dans ces dernières années. Les hospitalisations liées aux chutes ont augmenté de 20 % tandis que les décès ont augmenté de 18 % ça illustre l'ampleur d'un enjeu qui est majeur pour la santé publique et qui est évidemment au vieillissement de la population. Donc, on parle d'hospitalisation chez les 65 ans et plus de 1198 pour 100 000 habitants, des décès liés aux chutes de 138 pour 100 000 habitants, toujours chez les 65 ans et plus. Une hospitalisation de 8,6 fois plus élevée après 84 ans et une mortalité de 29 fois plus élevée chez les plus de 84 ans. Évidemment, c'est quelque chose qui est préoccupant là, pour les autorités publiques. Les femmes ont un taux de mortalité suite aux chutes qui est plus élevé. Et effectivement, aussi, il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres, entre autres des régions en banlieue, peut-être où les personnes sont plus isolées par rapport aux services qui sont donnés. Un taux de décès qui augmente de 18 %, c'est quand même quelque chose qui est important. Il y a un plan anti-chute donc, qui a été mis en place à la suite là, donc, de la publication de tout ça. Une étude sur la surveillance épidémiologique des chutes chez les personnes de 65 ans et plus. On veut connaître la dynamique des décès et des hospitalisations en lien avec une chute enregistrée entre 2015 et 2024. Dans l'optique de mieux comprendre ce qui cause l'augmentation des chutes que l'on a vues. Finalement, on parle aussi donc de qualité et de l'expérience de vie qui, évidemment, sont touchées par ces chutes-là. Parce que, oui, il y a plus de mortalité, mais le fait d'avoir plus de chutes, il y a aussi des personnes là, qui ne décèdent pas, mais qui sont blessées et qui, donc, perdent énormément de qualité de vie suite à une blessure importante parce que par la suite, ils ont besoin de plus de services, ils perdent en autonomie. Donc, évidemment, ça, ben, ça coûte aussi de l'argent au gouvernement. Donc, on parle du fait qu'on pourrait, donc, sur le plan collectif, un an d'espérance de vie de plus sans incapacité chez les personnes de 65 ans et plus correspondrait à une économie de 1,5 milliard d'euros pour l'assurance maladie. Donc, à chaque année où une personne vit, mais en ayant des besoins particuliers, ça coûte plusieurs milliers de dollars à l'échelle de 1,5 milliard d'euros là, pour l'ensemble de la population. On parle donc de tranches d'âge qui sont plus souvent hospitalisées également. Ça aussi, ça coûte évidemment, ça coûte cher, particulièrement donc plus 27 % là, chez les 65 à 74 ans, plus 20 % chez les 75 à 84 et plus 18 % chez les plus de 84 ans. Les hommes décèdent plus que les femmes. Le taux de décès chez les hommes est plus élevé à cause des chutes, dis-je. Mais effectivement, ça reste un problème important pour la France au niveau du maintien des personnes âgées en situation de handicap et de vieillissement, je devrais dire. Et ça reste un problème de santé publique étant donné les coûts qui sont reliés à ces chutes-là. Et donc, on termine avec la France et on revient au Québec par la suite là, pour la suite de la revue de presse dans quelques instants. On revient avec la revue de presse. Le Québec met en place une alerte silver qui est une alerte pour la protection des aînés. C'est un nouveau mécanisme d'alerte médiatique destiné à mobiliser rapidement la population et les forces policières pour retrouver des personnes aînées portées disparues. C'est une mesure qui est présentée comme étant en fait une alerte Amber, hein, mais pour les personnes vieillissantes. L'alerte Amber qui est utilisée, on le sait, hein, pour des enfants disparus, mais là, on parle de personnes vulnérables, de personnes âgées vulnérables. Donc, Silver pour système d'information pour localiser les personnes vulnérables égarées et recherchées. Donc, Silver. Silver, qui veut également dire gris ou argent en anglais, ça vise à combler un vide dans les outils de recherche des disparitions impliquant des personnes de 65 ans et plus et souffrant de troubles neurologiques majeurs, neurocognitifs majeurs ou représentant des symptômes confirmés par leurs proches. Donc, ce n'est pas n'importe quelle personne âgée, mais des personnes âgées qui sont particulièrement vulnérables étant donné des problèmes cognitifs. Pour déclencher une alerte, il doit avoir plusieurs critères. Donc, on doit exister un risque imminent pour la vie ou la sécurité de la personne. La diffusion d'alerte doit être jugée pertinente pour les recherches et on doit avoir suffisamment de renseignements pour avoir une diffusion publique. Et la ministre de la Santé et responsable des aînés, Sonia Bélanger, a souligné l'importance de ce déploiement pour renforcer la dignité et la sécurité des personnes aînées particulièrement ceux qui sont en situation de haute vulnérabilité, parce que, bien sûr, ces personnes-là donc, sont en danger, souvent en danger imminent, là, lorsqu'elles sont perdues, étant donné leur incapacité cognitive majeure qui pourrait les porter à ne pas être autonome et à ne pas savoir vers qui se tourner dans le cas où elles seraient perdues. Donc, c'est un peu à la manière des alertes Amber, je le disais, donc des alertes qui vont sonner sur le téléphone lorsqu'une personne âgée qui présente des problèmes cognitifs va être portée disparue. On a fait donc un projet pilote qui a été déployé dans 6 régions du Québec et qui maintenant sera généralisé à toute la population. Selon les cibles de la Coalition Avenir Québec, environ 7 % des personnes de 65 ans et plus au Québec sont touchées par des troubles cognitifs. Donc, ce ne sera pas une alerte qui devrait être extrêmement utilisée. Par contre, il y a quelques fois où elle sera utilisée, nous l'espérons, pour amener des gens à être retrouvés facilement et éviter, évidemment, des décès ou des problèmes graves de santé qui ont été occasionnés parce que les gens ont été perdus pendant plusieurs heures. Évidemment, il y a toute une question aussi de médication et de sécurité physique pour ces gens-là. Donc, c'est une bonne initiative là, qui a été mise en place. Dans le même ordre d'idées, le village de Sainte-Ville a récemment annoncé la formation de comité de pilotage dans le cadre de l'initiative Municipalité Amis des aînés, un comité qui a pour mission de développer un plan d'action visant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées de la communauté. Les membres du comité vont se former lors d'une séance du conseil municipal. Donc, on va recommander donc, une politique MADA pour avoir un comité pour les aînés qui va être évidemment mené par des personnes aînées. Pour qu'il y ait un comité permanent de personnes aînées qui puissent participer aux enjeux de la ville et donner des préoccupations là, des personnes aînées et également là, apporter des solutions à différents enjeux qui touchent les personnes aînées. Donc, c'est un type de comité qui me semble être très pertinent dans différentes villes au Québec qu'on devrait mettre en place, étant donné que les personnes aînées, malheureusement, sont peu écoutées et qu'on prend des décisions qui les concerne souvent sans leur demander leur avis. Et ça reste une bonne façon pour les personnes aînées de s'impliquer dans leur communauté et de rester socialement active dans la communauté. Donc, c'est une bonne chose et je pense que tout le monde gagne. Finalement, un manuel d'autotraitement pour réduire l'anxiété chez les personnes âgées. C'est une étude qui a été publiée dans le Journal of Anxiety Disorder. Donc, c'est une revue, évidemment, scientifique. Et on parle des bienfaits du traitement qui est encore présent après un an chez les personnes participantes. Ça a été testé, donc le manuel d'autotraitement a été testé auprès de personnes de 60 ans et plus et montre une efficacité. Donc, à long terme, en raison du vieillissement de la population, il y aurait de plus en plus de personnes âgées avec des problèmes d'anxiété. C'est ce que rapporte Philippe Yandreville, professeur à l'université, à l'école de psychologie, dis-je, donc de l'Université de Montréal. Il faut donc trouver des façons de réduire l'anxiété des personnes âgées parce que, on l'a souvent dit, hein, c'est quelque chose qui est nocif pour la santé physique et pour la santé psychologique des personnes vieillissantes. Donc, un manuel d'autotraitement guidé pour les personnes de 60 ans et plus pour les aider à gérer leur anxiété. Ça a été testé auprès de 150 personnes en collaboration, donc entre l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. On parle de 8 modules pour devenir son propre thérapeute qui est basé sur la thérapie cognitive comportementale qui met l'accent sur les pensées et les comportements qui maintiennent l'anxiété. C'est réparti sur 15 semaines et ça prévoit entre 30 et 60 minutes d'activité par jour pour le traitement. Ce qu'on a vu, en fait, je l'ai dit au début de la nouvelle, c'est que les personnes âgées qui avaient utilisé un manuel d'autotraitement avaient encore des bienfaits un an après l'utilisation. Et bien sûr, c'est quelque chose qui demande quand même peu d'intervention de la part de personnes, d'intervenants professionnels. Donc, ça permet aux personnes âgées de se traiter elles-mêmes dans le confort de leur maison sans être médicalisées et en évitant des surcharges aux professionnels de la santé. Évidemment, bien sûr, ça n'enlève absolument pas l'idée selon laquelle si vous avez des problèmes au niveau de l'anxiété ou des problèmes de santé psychologique, d'aller consulter là, cela vous trotte en tête. Par contre, des manuels d'autotraitement comme celui proposé par l'Université de Sherbrooke et l'Université de Montréal peuvent être des guides, hein, des outils supplémentaires pour les personnes vieillissantes, des personnes âgées qui en ont le besoin. Et il faut vraiment voir ça effectivement comme étant un outil supplémentaire pour permettre aux personnes qui souhaitent d'avoir quelque chose vers quoi se tourner pour faire de l'autotraitement à la maison lorsqu'elle le désire. Et bien, ça nous permet de mieux comprendre l'anxiété chez les personnes âgées et de mieux développer, de mieux comprendre ce qui fonctionne pour ces personnes-là. Donc, c'est quand même une bonne chose, malgré le fait, je le répète, que ça ne substitue pas... à des traitements médicaux là, pour des personnes qui en auraient besoin. Finalement, il y a une étude aussi là, qui est sortie, qui sont des exercices simples là, pour aider les personnes âgées à vivre plus longtemps. On pense souvent là, qu'il faut avoir des exercices de haut calibre, qu'il faut marcher beaucoup, qu'il faut faire énormément d'exercices pour être capable... Ça, c'est ta faute. Okay. Attends. Il faut pas que je reparte. OK, je vais regarder dans le truc. Okay. Oui, on pense souvent donc qu'il faut faire beaucoup d'exercices pour se maintenir en santé. En fait, il y a le docteur David Coulter qui travaille au Providence St. John's Health Center aux États-Unis. Qu'un mode de vie sédentaire est associé à un risque élevé de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et d'obésité, ainsi que de certains cancers de décès prématurés. Donc, les personnes âgées qui font de l'exercice peuvent améliorer évidemment leurs conditions physiques. Il faut maintenir une activité physique en vieillissant. C'est un des moyens les plus efficaces de préserver sa santé physique et sa santé cérébrale. Donc, selon l'étude qui a été faite donc aux États-Unis, il faut faire de l'exercice pour préserver évidemment sa capacité à prendre soin de soi, préserver son autonomie. On ne parle pas évidemment d'entraînement intensif ou de la course. On peut parler d'activités qui font bouger le corps et procurent une sensation de bien-être, comme des promenades au parc, du tai chi, de la danse, du jardinage et du ménage. Donc, il faut passer à de petites activités, mais les faire de façon régulière. C'est ce qui aurait le plus d'impact pour les personnes. Les personnes qui sont âgées, pour aider à maintenir les muscles et le système d'équilibre du cerveau et renforcer les connexions entre le cerveau et le corps. Toute activité sollicitant finalement l'équilibre, la coordination, l'attention est bénéfique pour le cerveau. Donc, on peut parier de danser en cuisinant, on peut parier de cuisiner en se promenant dans la cuisine, on peut parier également de jouer avec ses petits-enfants. Donc, des petits mouvements au quotidien qui améliorent la circulation sanguine vers le cerveau et le bon fonctionnement des voies nerveuses. Ces petites activités-là sont quand même très importantes. Et encore une fois, je le répète, on ne parle pas donc d'entraînement intensif, mais de conserver des petites activités au domicile, des activités qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Et ça maintient l'autonomie pour les personnes âgées et ça permet de vivre plus longtemps et surtout d'avoir une qualité de vie qui est plus intéressante pour les personnes âgées. Donc, il faut maintenir de petites activités, mais maintenir de petites activités dans le temps, le faire souvent et le faire à répétition, toujours en écoutant évidemment ce que le corps nous dit. Donc, c'est tout pour la revue de presse. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde.